supposer un instant que l'enfant de la tour au four électrique et que l'on verse le bain métallique liquide ainsi obtenu sur la surface occupée par les pieds, quelle hauteur pensez-vous qu'il atteindrait?
Oh, je ne sais pas trop. Il faudrait d'abord connaître la superficie de la base. Elle représente combien de mètres carrés?
Eh bien, les pieds étant éloignés de 100 mètres, cela fait donc un hectare ou 10 000 mètres carrés.
Eh bien, disons 3 ou 4 mètres de hauteur. La tour, en effet, est une véritable dentelle de fer et ça ne doit pas faire très haut.
Malgré cela, ce bain atteindrait tout au plus 6 cm.
6 cm. Et ces 6 cm représenteraient combien de kilos? Autrement dit, quel est le poids de la tour Eiffel?
Assez exactement 6 500 000 kilos. Et comme elle a coûté 6 500 000 francs, vous pouvez en déduire qu'à l'époque, elle valait tout au plus 20 sous le kilo.
C'est vraiment pour rien.
Il est certain que maintenant, elle vaudrait beaucoup plus cher. Je ne pense pas, en tout cas, le chiffre de la dépense serait inférieur à 60 millions.
Eh bien, je persiste à dire que c'est vraiment pour rien.
En effet, ce n'est pas cher. Et cependant, il faut bien dire qu'à l'origine, tout a été construit avec le plus grand soin. Puisque les ascenseurs, par exemple, s'élèvent à la vitesse d'environ 2,50 m à la seconde, ce qui n'est pas mal du tout si l'on considère qu'ils marchent depuis 50 ans.
Eh bien, ça prouve que la tour Eiffel est remarquablement entretenue. D'abord, on s'en rend bien compte, elle est toujours impeccable, elle est toujours propre comme un sou neuf. Vous devez la faire repeindre très souvent et ça ne doit pas être une petite opération.
Et non, 40 tonnes de peinture tous les 7 ans, ni plus ni moins. Et naturellement, pour remettre la nouvelle couche, on est obligé de gratter l'ancienne, sans quoi il y aurait une surcharge de poids excessive. Pensez que depuis la construction, elle a été repeinte 7 fois, ce qui ferait une surcharge de 280 tonnes. Ce sont des spécialistes qui, bien entendu, sont chargés de ce travail délicat. Ils ne doivent pas connaître le vertige et on les recrute généralement parmi d'anciens marins. Spécialistes aussi, ceux qui ont posé les lettres de notre publicité lumineuse. Un détail curieux qui nous a plongé dans une profonde perplexité. C'était à proprement parler le mystère de la tour Eiffel. Toutes les ampoules colorées en rouge étaient systématiquement démolies et uniquement les ampoules rouges. Un beau jour, nous nous sommes aperçus. C'était les corbeaux qui les démolissaient à coups de bec, les prenant pour des fruits.
Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis un épouvantail?
Et nous avons évité le plus possible cette couleur.
Monsieur Thomas, vous devez certainement connaître beaucoup d'histoires, beaucoup d'anecdotes sur la tour. Vous venez d'en raconter de fort amusantes. En connaissez-vous qui soit, comment dirais-je, qui soit émouvant, qui date des premières années?
Une des plus caractéristiques, et vraisemblablement celle qui s'est passée en 1891 dans les appartements de M. Eiffel au quatrième étage. Il y avait là Gounod, le célèbre compositeur, M. Eiffel, et un certain monsieur qui avait sous son bras une mystérieuse petite boîte. M. Eiffel demanda à Gounod de jouer une de ses œuvres, ce que le célèbre compositeur fit avec beaucoup de bonne grâce. C'est probablement la première fois que l'on avait l'occasion de jouer du piano à une pareille altitude. La stupéfaction de Gounod, à peine avait-il terminé que de la mystérieuse petite boîte sortaient des sons qui reproduisaient exactement ce concert improvisé. Le propriétaire de cette boîte n'était autre qu'un certain Thomas Edison, avec un des tout premiers phonographes de son invention.
Mais si l'on considère aujourd'hui la tour Eiffel comme le véritable clocher de Paris, il n'en a pas toujours été ainsi.
1889, qui est la date de l'inauguration de la tour Eiffel, est celle aussi de la pétition que signèrent des écrivains et des artistes aussi connus qu'Alexandre Dumas, Guy de Maupassant, François Copé, Charles Gounod, pour protester contre un monument qui déshonorait, estimait-on alors, le paysage de Paris.
C'est au lendemain de la guerre, surtout, qu'on s'est aperçu que, bien loin d'en les dire, le panorama de la capitale